On appelle les États du monde à voter en faveur d'un moratoire sur la peine de mort lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Donc vous savez qu'en 2007, pour la première fois, la question d'un moratoire sur la peine de mort a été proposée à l'Assemblée générale des Nations unies. La résolution a été adoptée et elle est proposée à nouveau au vote tous les deux ans aux États des Nations unies. Et donc on s'associe à cette demande pour que lors du prochain vote, de plus en plus d'États se rallient à cette demande autour du fait que la peine de mort est inhumaine et un traitement cruel, inhumain et dégradant. Ici en France, il y a aujourd'hui sur le parvis de l'Hôtel de Ville un village de l'abolition qui est organisé. C'est un village interassociatif avec l'ensemble des méthodes d'exécution qui existent encore dans le monde qui sont représentées, donc qui sont la lapidation, la pendaison, l'exécution par arme à feu, l'injection létale et la décapitation. Donc ces méthodes d'exécution sont représentées ici sur la place de l'Hôtel de Ville symboliquement pour dire que nous, on a aboli la peine de mort il y a 30 ans, mais il y a encore 58 pays qui pratiquent la peine de mort.
Aujourd'hui, plus de 20 000 personnes dans le monde sont enfermées en attendant leur mort programmée. Quelles sont les conditions de vie dans les couloirs de la mort ?
Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Les conditions de vie des condamnés à mort au Japon ne sont pas les mêmes que ceux des condamnés à mort à Madagascar. Un trait commun, cependant, c'est l'isolement. L'isolement et la durée de cet isolement, parce que les personnes condamnées à mort peuvent parfois rester pendant 10, 15, 20 ans en attente de leur exécution, et c'est une espèce de temps suspendu qui est pour nous une torture en soi. Dans les pays modernes comme les États-Unis et le Japon, ces personnes vivent toutes seules dans une cellule, elles n'ont aucun contact avec l'extérieur, elles ont très peu de visites, très peu de rapports avec même les personnels pénitentiaires, et donc elles souffrent avant tout d'un grand isolement. Dans d'autres pays plus pauvres, elles sont en plus soumises à la dureté des conditions de détention avec des rations alimentaires insuffisantes, des maladies, des problèmes d'hygiène, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, et des maltraitances de la part soit des autres détenus, soit des gardiens de prison.
Certaines personnes sont favorables à la peine de mort, peut-être parce qu'elles ont été confrontées à des crimes abominables commis notamment par des récidivistes. Que souhaitez-vous dire à ces gens-là ?
Nous, on travaille beaucoup au sein de la Coalition mondiale contre la peine de mort avec des associations de victimes, justement, qui viennent témoigner du fait que d'exécuter, de tuer quelqu'un d'autre, d'ôter la vie à quelqu'un d'autre, quand bien même cette personne serait responsable de votre malheur, n'apaise pas leur douleur. Au contraire, parfois, elle la renforce parce que c'est faire souffrir une autre personne, faire souffrir une famille, faire souffrir une société. Donc c'est pas dans le fait d'ôter la vie à quelqu'un d'autre qu'on apaise sa douleur et sa souffrance.
Est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous avez pu voir ou entendre sur la peine de mort ?
Je me trouve actuellement donc devant le parvis de l'Hôtel de Ville et vient de prendre la parole Curtis, un ancien condamné à mort américain qui avait passé 20 ans dans les couloirs de la mort et qui disait juste quel incroyable bonheur c'était pour lui de pouvoir être aujourd'hui vivant ici en train de célébrer les 30 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Alors qu'il y a de ça deux ans encore, il était lui-même dans les couloirs de la mort aux États-Unis et presque persuadé d'être bientôt exécuté. Entre-temps, il a été innocenté, comme plus de 150 ou plus de 200 personnes aux États-Unis actuellement.